Nous retrouvons sur l'antenne d'Alternante, c'était Florent Patron de la Cobrace. Maintenant, nous allons terminer cette deuxième partie d'émission avec Véronique Luneven, qui a nous parlé de son livre, on en a eu un avant-goût tout à l'heure, Le goût des autres, récit d'une bretonne à Madagascar, paru aux éditions Les Portes du Large. Alors, on rappelle, vous êtes parti, c'était un travail, hein, sous l'égide de l'AFDI, qui est une ONG bretonne.
Oui, c'est ça. Oui, comme j'avais envie de partir dans une durée au moins de 2 ans dans un pays dit en voie de développement, j'ai fait la démarche classique de recherche d'emploi et j'ai trouvé, pour ma plus grande satisfaction, une ONG bretonne qui avait un poste disponible à Tirmandite, donc sur les hautes terres, à 200 km à l'ouest de Tananarive.
Donc c'était plutôt parce que l'AFDI vous a proposé Madagascar, c'était pas un choix pour vous de Madagascar précisément. Vous auriez pu peut-être, en trouvant un autre emploi, aller ailleurs.
Oui, alors de mon côté, oui, de ma part, oui, mais les Malgaches m'ont tout de suite dit non, 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 c'était sûr que tu viendrais à Madagascar.
Et le rôle de l'AFDI, vous pouvez en dire deux mots?
Alors l'AFDI a des actions donc à Madagascar, à Tirmandide, à Diego, et a eu des actions aussi au Vietnam et a une coopération au Mali. Donc le principe, c'est les échanges de paysans à paysans. C'est l'idée de par les expériences vécues, et notamment en organisation à travers toute l'expérience coopérative qu'on peut avoir, et particulièrement en Bretagne, c'est de pouvoir partir de l'expérience et du vécu des hommes, des femmes, et échanger à partir de là. Et c'est donc une approche assez concrète, mais avec une perspective donc de formation, des émancipation et notamment pour qui prend acte d'un certain nombre, on va dire, d'échecs dans la coopération qui est basée sur l'échange de matériel, de crayons, de containers qui ont des effets plutôt destructeurs sur finalement les organisations locales. Donc on part vraiment sur une perspective de formation, d'organisation.
Alors, quelle était votre fonction précise, pourquoi vous étiez employé précisément en allant à Madagascar?
Alors, ma fonction exacte était la coordination des partenariats. Donc, puisque outre l'AFDI, il y avait des coopérations avec des communes. Donc, sur le même principe, des échanges de commune à commune.
On peut les citer, hein, les trois.
Donc, les communes, c'est la communauté de communes de l'Envol-Emploi, celle du Pays Léonard et la commune de Questembert, qui étaient respectivement jumelées avec la commune de Sakai, dans Malanir et de Beloubac. Donc avec aussi des échanges d'élus, mais aussi de jeunes, il y a eu des scouts, il y a régulièrement des échanges. Et donc mon rôle, il était au quotidien dans la gestion du projet, c'est-à-dire qu'on avait entre 30 et 50 000 euros par an, donc qui nous permettait d'employer 6-7 personnes, dont 6 techniciens, et puis après du personnel administratif, donc notamment pour faire de l'appui, du conseil, du suivi auprès des associations paysannes et des communes. C'était un petit peu, on va dire, des agents de développement locaux qu'on peut retrouver ici. Donc il y avait de la coordination de l'équipe, fixer les objectifs, suivre au quotidien les actions. Et puis la dimension partenariat, c'était accueillir des missions. Donc j'ai reçu pendant le temps où j'étais là-bas une délégation, un groupe d'élus du Pays Léonard, et on a organisé une journée, un petit séminaire sur la coopération décentralisée, enfin plus particulièrement sur la décentralisation, puisque les communes en Madagascar ont été créées très récemment, hein, il y a une petite dizaine d'années, et qu'elles sont en pleine phase d'organisation, et avec déjà des problèmes de mutualisation de ressources, puisqu'elles ont été créées avec peu de ressources. Donc dans la décentralisation, c'est la question de comment ça fonctionne une commune, et puis on va très vite sur l'intercommunalité. Ça a été l'objet essentiellement de ce séminaire, pour voir aussi comment nous on gère ça en France, quoi.
On peut rappeler les dates, hein, vous êtes parti pendant 2 ans.
Oui, de mars 2004 à mars 2006.
Alors avant, vous aviez une formation, connaître un peu l'état du pays ou ce qui vous attendait peut-être dans la région où vous alliez. travailliez ou vous y avez une part d'inconnu?
Non, parce que j'ai travaillé pendant 2 ans auparavant dans une ONG, donc là nationale, qui s'appelle aujourd'hui, enfin qui a changé de nom, qui s'appelle Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Donc j'avais eu l'occasion d'aller aussi passer quelques semaines au Brésil, en milieu rural. Donc je savais à peu près à quoi m'attendre. En plus, j'étais au Brésil dans les camps des mouvements des sans-terre, donc un endroit aux confins de l'Uruguay assez rude.
Dangereux
en partie, ouais. Mais j'ai retrouvé exactement la même ambiance où j'étais à Tiermandit, parce que ça, c'est la spécificité des zones de migration. C'est-à-dire que, et au Brésil d'ailleurs, je m'étais dit, oh là là, pourvu que j'aille pas dans un endroit comme ça, parce que j'avais trouvé ça, l'ambiance très très dure, avec des gens armés des fois qu'on rencontre sur les chemins, et puis les zones de migration, c'est la conquête du Far West, donc c'est des gens qui ont quitté tout leur pays, qui n'ont plus de racines en fait, et qui sont là, qui s'installent et qui travaillent comme des damnés pour mettre en culture des territoires immenses, et surtout avec un gros problème de sécurité que j'avais aussi trouvé au Brésil, c'est-à-dire que les zones, c'est des zones de non-droit, puisque je pense que notamment c'est le contrôle social, c'est-à-dire que quand des gens sont là depuis longtemps, il y a toujours un chef dans le village, il y a toujours on sait qui est la fille, les enfants de qui, et on s'auto-contrôle, parce que quand il y a des gens qui dépassent je pense aux les Côtes d'Armor là, tous les meurtres et tout ça, finalement il y a, même quand il n'y a pas de justice, hein, ce qui est le cas dans ces endroits-là, il y a un contrôle social et les gens peuvent pas quand même faire ce qu'ils
mais
quand on est dans une zone où les gens se connaissent pas d'un village à l'autre, ils ont peur les uns les autres, mais ils ont vraiment peur, hein. La nuit en général ils dorment pas trop, ils sont toujours en train de surveiller si on va pas leur voler un zébu. Si on passe en voiture par exemple, moi quand je voyais des gens qui avaient besoin de monter dans la voiture pour aller jusqu'à l'hôpital ou tout ça, si j'étais avec des paysans donc avec qui je travaillais et qu'on passait dans un village à 10 km de chez eux et que quelqu'un vous faisait signe pour monter dans la voiture, ils me disaient non, tu roules, tu t'arrêtes pas, et ils avaient peur.
D'ailleurs, c'est vrai que vous racontez, alors ce livre est intéressant parce que au premier abord on pourrait penser vous allez réaliser un travail là-bas, que c'est un livre à la limite très technique et pourquoi pas rébarbatif, et pas du tout. Ici, ce livre, c'est un véritable journal, hein, où vous racontez votre intégration progressive aussi au niveau de la population, et vous touchez à toutes les facettes de la vie, hein. Vous parlez de la sécurité, de l'insécurité, il y a des moments de joie assez intense, il y a des moments un peu morbides, il y a des moments tragiques aussi, de la perte accidentelle d'amis, par exemple, hein, que vous citez à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de... vous l'avez dit précédemment, hein, vu l'expérience que vous aviez au Brésil, ça vous a rendu un service énorme, sans doute, là, dans un pays où on a vu les contrastes ethniques aussi, là, il y a un grand métissage dans la population, c'est ça qui entraîne peut-être cette insécurité ou entre les personnes, vous pensez? Parce qu'effectivement, vous parlez souvent des tentatives de vol, les vols de zébu, par exemple, qui représentent quand même une valeur économique très forte à Madagascar, et comment vous avez ressenti tout ça?
Assez mal au début, parce que j'avais quand même l'image un peu entre guillemets du bon sauvage, c'est-à-dire les sociétés africaines solidaires entre elles, avec des valeurs fortes autour de la famille, et j'ai été pas très agréablement surprise de voir la dureté des rapports sociaux, que des gens dans une même famille peuvent s'assassiner en fait, ou tout voler tous les biens d'une personne.
C'est universel.
Oui, mais c'est vrai qu'on vit dans une société en France et peut-être aussi plus particulièrement en Bretagne autour de valeurs de coopération, de solidarité, et qu'on se rend pas forcément compte que c'est pas une donnée naturelle, que c'est quelque chose qui a été construit dans le temps, et que ce qui toutes les barrages qui nous empêchent mentalement d'agir vers des choses contraires à l'intérêt général, au bien public, c'est pas quelque chose qui est venu tout seul, et que dans des contextes durs, hein, où c'est quand même la lutte pour survivre et pour notamment se nourrir avant tout, c'est ça qui motive les comportements, d'assurer le minimum et notamment que les enfants puissent grandir et survivre, les valeurs et les priorités sont pas du tout les mêmes.
Alors, il y a toute une partie intéressante, puisque vous êtes la blanche qui arrive et qui est a priori privilégiée, qui a les moyens. Donc, on essaye aussi d'en abuser un petit peu. Tout ça, on retrouve un peu des similitudes, comme disait avec Étienne, avec d'autres régions du monde. En plus, vous aviez un budget. Donc, on voit bien qu'il y a des tentatives pour essayer chacun de retirer un peu de cet argent de ce que vous amenez avec vous en termes financiers.
À aucun moment, je n'ai existé pour ce que j'ai. C'est-à-dire que j'avais beau expliquer que j'étais petite fille de paysan breton, que dans ma famille ça n'avait pas toujours été facile et qu'il y a 50 ans en Bretagne il y a aussi des gens qui souffraient de la faim, ça c'est peine perdue, c'est-à-dire qu'on m'a quand même, quoi qu'il arrive, toujours considérée comme celle qui avait les cordons de la bourse, et à ce titre ça veut dire que j'ai jamais pu être dans une relation de confiance avec qui que ce soit, parce que de toute façon les rapports étaient biaisés. Effectivement, en plus, il y a le passé colonial qui fait que quand on est blanc, on est forcément celui qui a le pouvoir, y compris un pouvoir militaire. C'est-à-dire que moi, j'avais pas jamais peur de me promener dans la campagne parce que les gens avaient peur de moi parce qu'ils pensaient que j'étais armée. Donc il y a beaucoup de représentations qui subsistent, et finalement on est ce que nous on aimerait, la manière dont on aimerait être perçu et en décalage complet avec la réalité de ce que les gens perçoivent de nous, et même des gens avec qui j'ai passé énormément de temps, avec qui je pensais être sur des relations quasiment d'amitié, au bout de 2 ans j'ai réalisé quand ils m'ont volé mon appareil photo que j'étais plus sur des liens familiaux. Ils m'avaient pris un petit peu dans leur famille parce qu'ils étaient heureux aussi d'avoir un étranger chez eux, c'était valorisant, et qu'ils pouvaient en tirer quelque avantage à un moment donné.
Quand vous parliez tout à l'heure, vous arriviez avec des idées préconçues ou un certain idéal. Quand on vous retirait au bout de 2 ans de vie là-bas, est-ce qu'il y a des grandes désillusions? Est-ce que vous pensez quand même avoir réalisé un certain nombre de choses? Ou quand on lit votre ouvrage, on a vraiment l'impression qu'il faut beaucoup de courage, d'abnégation, et que on peut construire un certain nombre de choses, mais qu'une fois que vous êtes parti, tout est à refaire. Quelle est votre vision globale là-dessus?
Oui, il y a certainement un désenchantement, mais dont j'étais consciente, parce que ça faisait déjà 2 ans, des années que je m'intéressais, et que je commençais aussi à m'intéresser au discours sur la décroissance et sur les questionnements qui commencent à remettre en cause le fait qu'au final, on a quand même l'impression de poursuivre des rapports coloniaux, des rapports de domination des pays riches vers les pays pauvres, même si c'est à travers une aventure humanitaire et humaniste. J'étais en train de remettre en cause la notion d'amitié. Bon, en même temps, j'y crois quand même un peu. Je garde quand même des liens très forts. J'ai vécu des choses extrêmement fortes, des rapports humains très très forts qu'on vit pas ici, de partage, de solidarité. C'est un peu difficile parce que on met nos mots occidentaux sur des relations qui sont différentes. Donc j'ai pas vraiment les mots, mais en tout cas j'ai des émotions. Les relations, les types de relations que j'ai pu avoir avec les gens. Donc ça m'a construit. C'est-à-dire que cette aventure humaine-là, elle est quand même exceptionnelle et très constructive pour moi dans ma vie. Maintenant, à quoi j'ai contribué, qu'est-ce que les organisations qu'on essaye de mettre en place, ça donne. Moi, je crois qu'il faut aller voir dans 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait et ce que l'AFDI fait depuis 10 ans, moi, je reste convaincue que c'est de toute façon mieux que rien. Parce que si on n'était pas là, de toute façon, il y a d'autres acteurs qui seraient là et qui aujourd'hui, on voit bien, c'est quand même ce qui se met en place. C'est un modèle économique ultralibéral. Pour moi, même si ce qu'on fait, ça n'a pas forcément une portée concrète et valorisante à court terme, à moyen terme, long terme, pour moi c'est quand même une action sur les mentalités. Les enfants des familles avec qui j'ai vécu, chez qui je suis allée, avec qui j'ai parlé dans leur même langue, en montrant que on était finalement des êtres humains et qu'on pouvait se parler même si on n'avait pas la même couleur, ceux-là, moi j'aimerais bien les voir dans 20 ans ce que ça donne.
Alors justement, oui, vous parliez de la langue, vous avez rapidement appris du moins en partie le malgache ou la langue, parce que je pense qu'elle doit être peut-être différente d'une région à une autre, pour justement pouvoir entrer dans un contact plus facile avec la population.
Alors, la langue, elle est relativement unifiée. Alors, c'est le même débat qu'en Bretagne, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas entre Quimper, Brest, Vannes. En fait, on ne se comprend pas quand on n'est pas alphabétisé. Effectivement, les gens qui ont pas qui reconnaissent pas les différentes syllabes du nord au sud, ils ont du mal à se comprendre. Bon, et puis, il y a aussi des accents prononcés, il y a un peu des dialectes. Mais globalement, je dirais que le malgache que moi j'ai appris, je pouvais m'entretenir partout dans le pays en me faisant comprendre sur le principal. Donc sur comment j'ai appris
Oui, c'est ça. Oui, la langue, le fait de pouvoir dialoguer avec la population, c'était quand même important.
Ah, oui,
et puis
oui,
que vous pouviez arriver à comprendre aussi ce qui se disait, ça, c'était important dans la mission qui vous était confiée.
Alors c'était important au niveau professionnel parce que justement, tant que je parlais pas malgache, j'étais dépendant des techniciens. Donc eux, finalement, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient puisque tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui comprenait ce qu'ils disaient déjà, ils traduisaient ce qu'ils voulaient. Et ensuite, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais à partir du moment où j'ai commencé à parler malgache, les gens venaient, les paysans, les gens un peu partout, ils venaient me dire ce qui se passait vraiment, parce que je pouvais comprendre ce qu'ils me disaient. Donc ça a renversé le rapport de force aussi que je pouvais avoir avec les techniciens. Donc là, au plan professionnel, ça a été extrêmement, pour moi, libérateur hein, d'acquérir finalement mon autonomie dans mon travail et de pouvoir exprimer ma pensée telle que je voulais l'exprimer, et de rentrer dans une relation aussi de confiance avec les présidents des associations qui étaient, moi, les gens pour qui vraiment je travaillais, et qui parfois étaient, il y avait des choses qui se passaient au niveau des techniciens qui n'étaient pas du tout dans le sens de la coopération qu'on voulait mettre en place. Donc ça, c'était un point fort. Ensuite, à partir du moment où je parle malgache, ça change tout, quoi, parce que déjà les gens, ils sont tellement heureux de voir un français. Déjà, ils pensent que je suis américaine parce que les français, ils apprennent jamais le malgache, donc il n'y a que les américains pour le faire parce qu'ils préfèrent apprendre le malgache que le français, c'est plus facile, enfin je pense. Et donc déjà c'est rare que les gens arrivent à me croire que c'était possible. Donc tout de suite, ça a créé une relation de confiance, enfin pas de confiance, mais disons de
l'estime.
Oui, une,
tu fais un effort.
Oui, voilà, oui. Et puis une complicité, voilà, une complicité. Ah, une française qui apprend le malgache, c'est bizarre.
Ça fait plaisir.
Et ça leur fait extrêmement plaisir, y compris en France aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai l'occasion de rencontrer des malgaches, oh, Maitenkas, ils y croient.
Et comment les rapports avec les autorités, ça, qu'est-ce que ça a pu donner?
Alors les rapports avec les autorités, c'était pas toujours facile pour moi parce que j'étais de fait toujours mis en avant, enfin placée comme une autorité locale. Hein, on me considérait au même titre que le maire, le chef de la région, parmi les notables. Donc j'étais bombardée un peu à une position que j'ai pas forcément l'habitude d'assumer. Donc ça, il fallait l'assumer. Et je me retrouvais pas forcément dans le discours des élites notables, puisque moi, j'étais là pour travailler avec les paysans, et que les élites notables, elles sont là pour travailler quand même... Enfin, je pense qu'il y a un sens de l'intérêt général. La décentralisation contribue à responsabiliser les gens locaux, à les faire exister, et que à partir du moment où ils accèdent à un pouvoir, ils font comme ils peuvent, parce que c'est pas du tout facile, parce que du coup ils ont la pression sociale forte pour redistribuer, etc. Bon, c'est des positions, je pense, qui sont quand même très difficiles à tenir, mais ils sont à la... Pour moi, enfin, j'ai perçu ça à la botte un peu d'un État qui met en place des politiques extrêmement libérales sur lesquelles je me retrouvais pas. Donc moi, ma motivation, je pense que c'est très important de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les autorités locales, mais pas être dupe non plus de ce qui se met en place, et travailler en même temps avec l'échelle des paysans et des maires pour montrer aussi à quels droits ils peuvent accéder et quelle vision ils peuvent construire de leur avenir.
Et puis on voit, vous êtes resté essentiellement pendant ces 2 ans à la campagne, mais vous avez fait en fin de séjour un séjour dans la capitale, hein, Antananarivo, et là, le rapport avec la bourgeoisie de la capitale, tout ça, il y a quand même une grande différence là entre cette population de la capitale et cette minorité de la capitale et le reste de la population. Il semble y avoir un fossé quand même assez important.
Il y a deux choses. C'est un État centralisé sur le même modèle que la France. Donc on a Tana et le désert malgache. À quand même à des exemptions près que comme c'est un pays très enclavé, on a plutôt des pays dans le pays. C'est-à-dire que Diego, par exemple, c'est très autonome par rapport à Tana. Donc ils construisent leur propre dynamique de développement parce que de toute façon, il n'y a quasiment pas de route. Pour y aller, c'est en avion. Donc c'est compliqué. Et puis alors il y a l'autre aspect qui je ne sais pas si on peut dire que c'est comme en France, mais en tout cas, on ne parle pas d'ethnie aujourd'hui parce que c'est politiquement incorrect, mais il y a des cultures et avec des origines aussi, ethnographiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a des origines indonésiennes et une partie, et plutôt sur les côtes, des origines africaines. Et ça, on le voit très clairement, y compris physiquement, sur la manière, enfin les visages des personnes. Et la culture, hein, ça reste à voir entre la côte et les hauts plateaux. Mais après, le fait que l'administration soit concentrée et les postes à Tana, donc dans la ville où se trouve la majorité de Merne, qui sont en plus descendants du pouvoir royal qui a fait l'unification du pays, ça donne quand même des rapports de domination, de force assez forts et injustes. Hein, il y a vraiment l'accès à la fonction publique, par exemple, elle est clairement réservée à certaines parties de la population. Donc pour moi, c'était assez dur d'arriver dans ces milieux-là. En plus, effectivement, qui, à un moment, je le dis, se prennent pour des blancs. C'est-à-dire que, parce qu'ils sont blancs, parce que là-bas, on dit que c'est des blancs, parce qu'effectivement, ils ont le visage plus clair.
Ouais,
et puis, en plus, c'est les dominants, c'est eux qui ont succédé au pouvoir colonial. Enfin, en partie, hein, c'est plus compliqué que ça, mais globalement, ils tiennent pas mal de choses au niveau de l'économie. Bon, il y a les Indiens aussi, hein, qui ont beaucoup de parts dans l'économie. Ils ont accès à l'éducation, ils sont beaucoup plus christianisés. Hein, le protestantisme, le catholicisme sont très forts, ce qui n'est pas le cas dans d'autres parties du pays. Donc il y a un décalage, on a l'impression d'un autre pays. Et effectivement, quand on arrive à Tana. Enfin moi, en tant que Française, j'arrive quasiment dans le bureau du ministre directement. Je passe donc de la chaumière en terre battue au bureau du ministre. C'est des contrastes qui sont pas toujours faciles à gérer. Et comme moi, j'étais vraiment là avec et pour les paysans, du coup j'avais une approche peut-être des fois un peu critique de cette bourgeoisie de capitale.
Voilà, ben merci Véronique Lunven pour nous donner envie de lire votre livre, hein, Le goût des autres, récit d'une Bretonne à Madagascar, aux éditions Les Portes du Large dans la collection Monde Solidaire. Merci d'être venu nous en parler, et puis ça nous encourage, du moins à ceux qui ne l'ont pas lu, de le lire. Sinon Étienne, nous avons écouté Daniel Vaudrey, hein, Les grandes affaires criminelles des Côtes d'Armor, de Boré.